Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres, dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. Une semaine très riche en rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Jugez plutôt, ça a commencé avec le raz-de-marée électoral de l'extrême droite aux élections européennes. 40% de la moitié des électeurs, oui, il y avait quand même 50% de personnes qui ne sont pas allées voter, d'abstention. Donc 40% de ces 50% qui s'est déplacé dimanche 9 juin a voté pour l'extrême droite, principalement pour le Rassemblement National, mais aussi pour Reconquête, pour l'UPR de Asselineau, pour les patriotes de Florian Philippot, et même pour Forteresse Europe, une liste ouvertement fasciste. Jordan Bardella a à peine le temps de dérouler sa démagogie dans son discours que le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de péter de la rep annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Il aurait préparé son coup. C'est ce que nous dit depuis plusieurs semaines, c'est ce que nous dit Le Monde dans un article qui a paru cette semaine justement. En se justifiant par le fait de redonner la parole aux Français, ce qui montre bien que la démocratie représentative est une confiscation de la parole des citoyens. Puisque c'est juste au moment du vote qu'on lui donne la parole à cette population. Patatras, à peine le temps de se remettre de la campagne des européennes, il faut en refaire une autre, celle des législatives, pour élire les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Conséquence immédiate, tous les travaux parlementaires s'arrêtent, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. D'abord les lois en discussion, renvoyées après les élections, les commissions d'enquête, comme celle sur la pertinence de l'autoroute A69, renvoyées aux calendes grecques, mais ça n'empêche pas l'exécutif, donc Emmanuel Macron et le gouvernement, de continuer à pouvoir gouverner, par décret notamment. Donc sans se soucier de la représentation nationale, Gabriel Attal a annoncé qu'il allait continuer à faire la guerre aux pauvres avec la réforme de l'assurance chômage. La démocratie représentative sans représentation en somme. Alors le plus jeune fossoyeur, je vous en parlais, des classes populaires de la 5ème République, s'emploie à profiter de son pauvre petit pouvoir puisque Gabriel Attal, je le répète, a annoncé cette semaine sur une radio d'État que la réforme du chômage qui durcit encore les conditions d'accès à l'indemnisation pour les privés d'emploi, comme on les appelle, sera appliqué à partir du 1er juillet. Et oui, on peut malheureusement compter sur les libéraux qui nous gouvernent pendant la campagne législative. La guerre aux pauvres va continuer. Ah bah oui, ce sont des soutiens des riches. Faut pas non plus insulter ni l'avenir, ni les copains, ni la famille. Du coup, comme ils n'ont pas de pauvres dans leur connaissance, ils leur font la guerre. Mais la résistance aussi est là. Ainsi, des milliers de personnes se sont rassemblées dans les villes, en particulier toute la semaine, pour manifester contre l'extrême droite et la possibilité de son accession au pouvoir. Pendant ces manifestations, des commerces, banques, commissariats, panneaux publicitaires ont été la cible de dégradations. Certaines revendiquées comme politiques, d'autres étant totalement opportunistes. Parfois, les militants de la rue d'extrême droite sont allés à la confrontation avec les manifestants. On a un exemple à Nancy où ils étaient protégés par la police. Alors pour tous ceux qui douteraient de ma parole, une vidéo de la Fédération Libertaire de Lorraine nous montre bien l'enchaînement. Une chaîne sur YouTube, vous cherchez Fédération Libertaire de Lorraine. Eh bien ça nous montre que je ne grossis pas le trait d'un iota. Les militants d'extrême droite sont protégés par la police dans leur attaque du cortège des antiracistes et antifascistes à Nancy cette semaine. Au Mans, lundi 10 juin, plus de 1000 personnes se sont réunies place de la préfecture et sont parties en manifestation dans les rues du Mans avant de tenir une assemblée générale. Beaucoup de jeunes et ça fleurait bon quand même les années 80. Ah oui, le Front National est emmerdé par la jeunesse. Un slogan popularisé par les berruriers noirs dans les années 80 et qui nous rappelle que du FN au RN, les valeurs n'ont pas changé. La préférence nationale, le rejet des différences et tout le reste, hein, tout ce qui va avec. C'est-à-dire une vie qui ne semble pas très portée sur l'adhésion entre les peuples et les populations, mais plutôt sur la haine des autres. Eh oui, dans le FN, il y a haine. On dirait qu'ils l'ont fait exprès. Faut nous rappeler que ce sont les nationalistes. Et des nationalistes, eh bien, ont malheureusement rivé au corps une valeur qui est la haine de l'autre. Pourtant, l'amour de soi, ce n'est pas forcément la haine de l'autre, mais là, avec les nationalistes, il y a l'idée qu'on est supérieur au reste du monde. Donc forcément, comment traite-t-on les inférieurs? Comme le font les racistes, c'est-à-dire en les considérant comme étant des moins que rien que l'on peut dominer. Alors, dans la manifestation, on pouvait lire des banderoles lundi 10 juin. Ils bombardent, ils expulsent contre le fascisme d'État solidarité. Là, ça parlait à la fois de la Palestine avec son fascisme d'État, mais aussi de la France qui a une attitude particulière vis-à-vis des étrangers. Depuis le début des années 2000, une vingtaine de lois a modifié le statut des étrangers en France pour à chaque fois le rendre plus difficile à vivre. On avait également, dans la manifestation, pas mal de militants de gauche. Alors, on leur a posé des questions, mais tout d'abord, on a demandé à une jeune femme... Oui, je crois qu'on peut le dire, jeune femme encore. Mais je ne sais pas, je lui ai pas demandé comment elle se genrait. En tout cas, elle nous a répondu ceci.
Pourquoi il y a une pancarte qui indique « Union populaire » Qu'est-ce que vous entendez par là?
En fait, comme Macron a dissolu l'Assemblée nationale et qu'on va devoir voter pour les législatives, on encourage fortement les partis de gauche à s'unir et créer du coup une union populaire, une union de la gauche, comme ils avaient fait avec la NUPES, pour contrer les partis d'extrême droite et même juste de droite et avoir un maximum de voix possible en s'union et de sièges à l'Assemblée nationale.
Il est vrai que l'extrême droite, c'est une chose, mais la droite, c'est ceux qui sont au pouvoir actuellement, faut pas dire qu'ils nous font une vie très heureuse, puisque nous sommes pour eux tout simplement des ressources humaines. Alors, de fait, quelle était l'idée? Là, c'est une union populaire. On a entendu plein de slogans dans les diverses manifestations qui invectivaient justement les responsables des partis politiques de gauche, leur demandant de ne pas trahir la population. Alors, on a demandé comment ça pouvait se dérouler auprès d'un militant du PS, en l'occurrence Monsieur Chauvin, qui est élu où? Eh bien, à La Flèche.
Il y a un appel à une union populaire que l'on peut retrouver dans le cortège. Qu'est-ce que vous en pensez?
Un front populaire, un front uni. Moi, j'en pense qu'il faut une unité la plus large possible pour battre le Front National. On dit le Rassemblement National, mais moi, je continue à dire le Front National parce que c'est la même graine. Et donc, il faut qu'on soit tous unis, il n'y a pas de secret.
Alors, vous êtes militant au Parti Socialiste. Est-ce que vous allez être entendu par l'appareil du parti?
Ça, l'avenir va nous le dire. Je ne peux pas vous répondre à leur place. C'est eux qu'il faut interroger.
De fait, normalement, les militants du parti sont ceux qui décident. Donc, est-ce qu'à un moment, vous pensez que vous allez être interrogé sur le sujet?
Je pense que le signal qui a été envoyé est clair. Et maintenant, l'unité, elle se fait à plusieurs. Donc, c'est comme le mariage. Vous savez, il faut être deux consentants.
Mais la question que je vous posais, c'est est-ce qu'à un moment, vous pensez que, en tant que militant, vous allez être consulté sur le sujet?
On est tous d'accord, il n'y a pas besoin d'une consultation formelle, tout le monde est d'accord. Et oui, il y a des consultations qui se font au niveau des sections, au niveau des fédés, il n'y a pas de problème.
Et donc, de fait, il y a l'idée qu'il y a quand même une espèce d'urgence démocratique, urgence démocratique représentative, donc toute relative en termes de démocratie. Mais il apparaît qu'avec la dissolution et l'obligation à présenter des candidats très rapidement, la consultation des militants formelle, comme le dit ce militant du PS, est très difficile à mener. On a posé la même question à un représentant des Verts.
Ça se fait nécessairement, mais on a des réunions au niveau local avec les partenaires politiques. Mais par contre, les décisions générales vont forcément se prendre dans les états-majors. On a 5 jours devant nous, là. Les candidatures doivent être déclarées d'ici vendredi, lundi, dernier délai, paraît-il. Mais ça ne laisse pas le temps de faire une vie démocratique profonde.
Ça vous ennuie ou pas?
Non, là... les choses sont assez claires, il faut faire front face au Front National et il n'y a pas de problème complexe et métaphysique à se poser.
La démocratie, je crois que c'est quand même important.
Mais c'est pas contraire à la démocratie. C'est justement pour faire acte démocratique qu'il faut faire front ensemble. Et puis on a d'ailleurs toute une histoire de collaboration ensemble. On part pas de rien, on sait pas. Donc il n'y a pas d'idées contradictoires. Ce qu'il faut, c'est réussir l'union. Et ça, c'est un exercice compliqué en ce moment.
Le son date de lundi et depuis, eh bien, les différents partis de gauche et moins de gauche, mais de gauche quand même, eh bien, se sont retrouvés et ont décidé de partir dans un nouveau front populaire. La droite explose, eh ben, tant pis pour eux, elle va rejoindre soit la Macronie, c'est-à-dire rester de droite, ou alors soit l'extrême droite et donc rester de droite. Eh ben, on va les laisser entre eux. Mais au fait, c'est quoi cette histoire de parti politique là ?
J'arrête. C'est la minute des enfants. Aujourd'hui, le P.
P. P comme parti politique. C'est un groupe de personnes privilégiées qui cherchent à prendre le contrôle du gouvernement en trompant les gens. Ces personnes sont des promesses qu'elles ne réaliseront pas. Elles permettent au capitalisme et aux oppresseurs de continuer leur domination en faisant croire aux adultes qu'il n'y a rien d'autre à faire que voter pour l'un des partis politiques lors des élections. Eh ben oui, la politique, les petits, c'est autre chose que d'aller voter. Et souvenons-nous que puisque l'alliance des partis de gauche s'appelle le Nouveau Front Populaire, on se rappellera qu'en 1936, c'est surtout le gigantesque mouvement de grève de mai, juin, juillet 1936 qui a amené les élus du Front Populaire à voter des lois sociales et à obliger le patronat à lâcher du lest sur les salaires. Voilà qu'on s'en souvienne. Alors, il existe également des conséquences sur le monde économique. Un certain Bruno Le Maire a parlé du programme du RN comme étant marxiste. Ah ben, il ne doute de rien, lui. Et puis, ben, on sait que ben, les représentants des entreprises, MEDEF et compagnie, se bousculent pas pour soutenir la Macronie, même si elle aura donné plein de choses, comme disaient les Échos. On en reparlera la prochaine fois. Mais justement, tout ce beau monde étant libéral, du RN à la Macronie, c'est quoi ? Quelle est l'idéologie qu'il porte en faisant croire qu'elle n'a pas d'alternative? Eh bien, pour tenter de mieux comprendre à qui on a affaire à droite, vous aurez compris qu'on y met les soutiens du mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de péter de la rep. Donc, de la Macronie de droite à l'extrême droite, qui sont ces libéraux? Pour en parler, on va vous diffuser une petite partie de ce que l'on avait fait en 2022. On avait fait des émissions consacrées à l'idéologie libérale en économie qui sert de socle au capitalisme et qui nous fout dedans sociétalement tous les jours et un mort par jour au travail, par exemple. Ce capitalisme qui aime l'accumulation et la compétition aux dépens de la sobriété et de la coopération. Le libéralisme économique et sa science économique étaient l'objet de ces émissions, dont voici la première. Souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, nous abordions avec Karl Polanyi le sujet de l'homo economicus. Cet individu est censé connaître tous les choix possibles, qui peut donc classer ses possibilités dans un ordre de préférence cohérent, et enfin, il prend toujours la meilleure décision, celle qui maximise sa satisfaction. Voilà comment nous le présente Jacques Généreux, un économiste hétérodoxe. L'homo economicus est donc un être terriblement rationnel, pour lequel les autres n'existent pas autrement que pour sa satisfaction personnelle. De fait, cet être n'existe pas. Non, sauf dans le cas de sociopathes avérés. Il est le produit finalement d'une série de postulats pour permettre la création de modèles mathématiques. L'inventeur de ce concept d'homme rationnel jusqu'au bout des ongles et des cheveux, et motivé par la seule satisfaction égoïste de ses buts personnels, est un certain Léon Valras. Léon Valras est né en 1834 à Évreux, en Normandie, et il meurt en 1910 à Clérens, une commune suisse sur le lac Léman. Parce que Léon Valras est un économiste qui a fait carrière à l'université de Lausanne, en Suisse donc. Il est membre de l'école néoclassique. Libéral en économie, il appuie ses travaux sur l'existence d'un marché, la nécessité d'une concurrence et dépasse les travaux des classiques, puisque c'est un néoclassique, les travaux des classiques comme Adam Smith ou Ricardo. Et la fameuse main invisible du marché qui doit permettre de trouver un prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Oui, parce qu'Adam Smith, il est surtout connu pour ça, cette histoire de main invisible du marché. Et ces notions de prix, un prix qui satisfera les besoins du plus grand nombre, puisque Adam Smith fait partie des utilitaristes qui veulent donner le bonheur le plus important au plus grand nombre. Un prix pour toute chose, défini par l'offre et la demande. Une concurrence entre les acteurs économiques rationnels et libres qui amène cet équilibre. Autant de marqueurs de la pensée libérale appliquée à l'économie. Revenons à Léon Valras. Par sa théorie de l'équilibre général, il est selon Schumpeter, un autre économiste libéral qui meurt en 1950 à 67 ans et qui est d'une autre école, en l'occurrence, non pas l'école néoclassique, mais l'école autrichienne. Eh bien, d'après Schumpeter, Léon Valras, avec sa théorie de l'équilibre général qu'on abordera peut-être un autre jour, il est le plus grand de tous les économistes, Léon Valras, d'après Schumpeter. C'est du moins ce qu'il dit à propos de l'histoire, dans son histoire de l'analyse économique. La théorie de l'équilibre général fait partie de la science économique pure, une des trois parties de l'économie selon Walras. Parce que pour lui, la science économique recouvre trois champs d'études. L'économie politique pure, on y revient juste après. L'économie appliquée, alors elle traite des rapports des humains aux choses. C'est une science appliquée qui de fait se confronte au réel et permet de créer des règles. L'économie sociale, qui est une science morale, visant à la mise en pratique d'un idéal de justice dans la création des prix. Ce champ d'études montre que Walras réintègre des éléments humains dans ses théories économiques. Il est par exemple pour l'exclusion de la terre de la catégorie marchandise. Ça ne devrait pas pouvoir se vendre. Mais son économie sociale et son économie appliquée, c'est moins intéressant pour Schumpeter de l'école autrichienne. Non, lui ce qu'il aime, c'est l'économie politique pure et l'équilibre général, la théorie de l'équilibre général de Léon Walras. L'économie politique pure est une science pure, détachée du réel. Elle vise à générer des idéaux, voilà, des formes idéales de consommateurs ou de producteurs, des formes de prix, des formes de marché, etc. Léon Walras la présente, cette économie politique pure, dans un ouvrage de 1874 qui s'intitule « Éléments d'économie politique pure ou théorie de la richesse sociale ». L'ouvrage est résumé dans des articles, notamment dans le Journal des économistes. Tome 34 1874, je cite sous le titre « Principe d'une théorie mathématique de l'échange ». C'est Léon Walras qui parle, ou du moins qui l'a écrit. C'est une question encore débattue entre économistes que de savoir si l'économie politique est une science proprement dite ou une science d'application. Je crois pour ma part, non pas qu'elle est à la fois l'une et l'autre, car une science ne saurait être à la fois science proprement dite et science d'application, mais qu'il y a lieu de distinguer d'une part, sous le nom d'économie politique pure, l'étude pure et simple des effets naturels et nécessaires de la libre concurrence en matière de production et d'échange. Et d'autre part, sous le nom d'économie politique appliquée, la démonstration de la conformité de ces effets avec l'intérêt général et conséquemment l'énumération détaillée des applications du principe de la libre concurrence ainsi démontrée à l'agriculture, à l'industrie, au commerce, au crédit. N'est-il pas nécessaire en effet de savoir au moins quels sont les résultats du laisser-passer laisser faire pour pouvoir dire que ces résultats sont bons et avantageux. Cette nécessité est tellement évidente qu'elle impose même aux économistes qui contestent à l'économie politique pure son existence. Ils font de l'économie politique pure, mais ils la mêlent à l'économie politique appliquée de telle sorte que notre rôle est moins d'affirmer la science dont il s'agit que de la mettre à part en précisant son objet, son caractère et sa méthode. Pour cela, supposons un pays où existerait en quantité déterminée telle et telle variété de services producteurs, savoir des terres, des hommes et des capitaux, et où l'on déciderait de laisser, à partir d'un moment donné, la production et l'échange s'effectuer sous l'emprise de la plus libre concurrence, du plus complet, du plus absolu laisser-faire, laisser-passer, abstraction faite de toute considération d'intérêt ou de justice. Je veux dire non pas du tout parce que l'on croirait cela plus utile ou plus équitable, mais uniquement pour savoir ce qui arriverait. Eh bien, sans attendre l'expérience, on peut dire que dans ce pays, au bout d'un certain temps de ce régime, il arriverait nécessairement trois choses. Il y aurait telle et telle espèce de produit en quantité déterminée, tant d'hectolitres d'avoine, tant d'hectolitres de blé, tant de litres de café, etc. On serait, il va sans dire, plus ou moins bien renseigné par la statistique sur ces diverses quantités de produits. Toujours est-il qu'elles seraient à chaque instant parfaitement déterminées ou mathématiques. Tous ces produits auraient chacun un prix déterminé, c'est-à-dire qu'ils s'échangeraient les uns contre les autres en certaines proportions déterminées de quantité. Un hectolitre de blé s'échangerait contre 2 hectolitres d'avoine et contre 10 livres de café, etc. Ces prix, bien entendu, seraient plus ou moins susceptibles de varier d'un moment à l'autre. Il n'en est pas moins vrai qu'ils seraient, eux aussi, à chaque instant, parfaitement déterminés ou mathématiques. Enfin, tous les services producteurs existants dans le pays auraient également chacun un prix déterminé ou mathématique. Telle ou telle terre se vendrait tant et se louerait tant. Le salaire de tel ou tel travailleur serait de tant par journée. L'intérêt du capital serait de tant pour cent par an. Tels sont donc les effets naturels et nécessaires de la libre concurrence en matière de production et d'échange. L'étude de ces effets doit, à mon sens, être poursuivie d'une manière spéciale, indépendamment de toute question et antérieurement à toute conséquence d'application. Elle constitue d'ailleurs un problème extrêmement vaste et compliqué, qu'en vue d'une solution plus facile, on peut, je crois, partager en deux autres.
Laissons d'abord de côté pour la considérer plus tard cette circonstance que l'avoine, le blé, le café, etc. sont des produits. Et n'y voyons que des marchandises qui s'échangent sur un marché. On cherche la relation qui existe entre les quantités de ces marchandises et leur prix sous l'empire de la libre concurrence. C'est un premier problème qui forme l'objet de la théorie mathématique de l'échange et qui pourrait à la rigueur s'énoncer ainsi. Étant donné les quantités des marchandises, formuler le système d'équations dont les prix de ces marchandises sont les racines. Cette première théorie, une fois élaborée, faisons alors intervenir cette circonstance essentielle que les marchandises en question résultent de l'association de services producteurs. On cherche la relation plus complexe qui existe entre les quantités de ces services producteurs, les quantités des produits fabriqués, les prix de ces produits et les prix des services producteurs, toujours dans l'hypothèse d'une production et d'un échange régis par la libre concurrence. C'est un second problème qui forme l'objet de la théorie naturelle de la production et qui peut, si l'on veut, se poser en ces termes. Étant donné les quantités des services producteurs, formuler les systèmes d'équations dont, premièrement, les quantités des produits, deuxièmement, les prix et de ces produits, et troisièmement, les prix des services producteurs sont les racines. Ainsi envisagé, la théorie de la richesse sociale ou économie politique pure apparaît clairement avec le caractère d'une science proprement dite physico-mathématique. C'était un peu long, mais c'est juste pour vous dire que pour Léon Valras, cet homo economicus qui va apparaître dans ses équations, eh ben c'est justement un idéal mathématique. Pour les néoclassiques et l'école d'économie basée sur des éléments de la philosophie libérale de la concurrence sur les marchés, l'économie politique pure est une science naturelle. Donc une science où des forces inéluctables amènent à des résultats inévitables. Cette naturalité permet d'affirmer la nature humaine, tout en la réduisant à des concepts mathématiques. Voilà donc l'écueil primordial pour tous les radicaux libres dont nous égrenons la pensée dans cette émission depuis deux saisons maintenant. Que ce soit Gunther Anders ou Dany Robert Dufour, André Gorz, Bernard Charbonneau et j'en passe, la dimension morale de l'humain empêche de raisonner comme les libéraux attachés par idéologie à l'idée de la rationalité économique qui nous mènerait toujours, partout, par le bout du nez. Valras est clairement conscient que l'économie n'est pas que la production de concepts, mais doit être confrontée au réel. Il sait que son homo economicus n'est pas l'humain. Pourtant, le présupposé de la rationalité économique reste d'actualité dans les études économiques. L'économie mathématisante, qui fait des hommes des éléments d'une équation seulement animée par la satisfaction de leurs besoins, aura des successeurs, comme Arrow et Debreu, dans les années 50. Elle a même été élargie, cette économie mathématisante, par Gary Becker à d'autres champs sociaux. Gary Becker, né en 1930 et fait ses études d'économie à Chicago, où il a eu comme professeur Milton Friedman, le fondateur de l'école de Chicago, un courant de pensée économique très libéral. L'école de Chicago croit au marché libre et à son équilibre naturel. Aussi, les membres de cette école prônent la dérégulation à tout va. Pas de loi, laissez faire, laissez passer. Les économistes de cette école furent à l'œuvre dans le Royaume-Uni de Thatcher, les États-Unis de Reagan, le Chili de Pinochet, j'en passe et j'ai du mal à trouver pire. Ils influencèrent également les politiques de la Banque mondiale et du FMI, ce qui conduira à la privatisation de pans entiers des économies de pays en développement, comme on dit. Gary Becker baigne dans cet environnement intellectuel. Il obtient ses diplômes à Chicago, il s'en va travailler à l'Université de Columbia à New York, dont il part en 1968 à la suite des manifestations de militants pacifistes et des gauchistes du coin. Il retourne à Chicago pour poursuivre son travail. Gary Becker répondait ainsi à une interview dans le 3000e numéro de la revue Problèmes économiques en juillet 2010. La question, quelles ont été et quelles sont toujours vos méthodes de travail ? Gary Becker. On pourrait dire qu'elle consiste à supposer que la plupart du temps, les individus prennent des décisions les plus rationnelles possibles, en particulier lorsque celles-ci portent sur des questions importantes qui les touchent de près. Cela permet de mieux comprendre ce que l'on observe sur les plans du mariage, de la fécondité et de la discrimination, autant de sujets que vous avez évoqués, puisqu'on n'est pas au tout début de l'interview. Eh oui, c'est la rationalité, le rationnel, cet homme irrationnel. L'homo economicus, voilà celui qui est l'objet des études de Gary Becker. Gary Becker obtient l'équivalent du prix Nobel pour l'économie en 1992. Alors il se fend d'un discours où l'on peut entendre « Mes recherches s'appuient sur l'économie pour traiter de certaines questions sociales que les économistes n'ont pas l'habitude d'aborder. Cette conférence en décrit la méthode et en fournit des exemples, tirés de mon travail passé ou en cours. »
À la différence de l'analyse marxienne, l'approche économique dont je parle ne considère pas que les individus sont uniquement motivés par l'égoïsme ou l'appât du gain. C'est une méthode d'analyse. Elle ne s'en tient pas aux motivations particulières. Avec d'autres, j'ai tenté au contraire d'inciter les économistes à s'éloigner des hypothèses se limitant à l'intérêt personnel. Le comportement est déterminé par un ensemble beaucoup plus riche de valeurs et de préférences. L'analyse fait donc, en revanche, l'hypothèse que les individus augmentent autant qu'il leur est possible leur bien-être, de façon à approcher le niveau qu'ils jugent satisfaisant, qu'ils soient égoïstes, altruistes, fidèles, rancuniers ou masochistes. Leur comportement s'inscrit dans une perspective d'avenir et il est également censé avoir dans le temps une certaine constance. Ainsi font-ils de leur mieux pour anticiper les conséquences incertaines de leurs actions. Rien n'empêche toutefois un tel comportement de s'enraciner dans le passé, dont l'ombre se projette sur les attitudes et les valeurs. Là, quand je lis le début, Gary Baker nous dit que non, l'égoïsme et l'appât du gain, c'est pas la motivation principale. Ce serait d'ailleurs ce que décrit l'analyse marxienne. Allons bon. Et de fait, par contre, eh bien, le but, il n'est pas l'appât du gain ou l'égoïsme, non, c'est juste de satisfaire au maximum son bien-être. J'ai l'impression qu'il nous parle de la même chose. La rationalité économique reste donc quand même le ressort. L'augmentation du bien-être par la comparaison des avantages et inconvénients, en postulant que les individus sont au courant de l'ensemble des données. Dans son discours, il prend l'exemple du mariage. L'analyse de la fécondité a une longue et remarquable histoire en économie. Mais jusqu'à ces dernières années, le mariage et le divorce, ainsi que les relations entre époux ou entre parents et enfants, étaient plutôt négligés par les économistes. Mes travaux sur la famille partent de l'hypothèse suivante. Lorsqu'un homme et une femme décident de se marier, d'avoir des enfants ou de divorcer, ils tentent d'améliorer leur qualité de vie par comparaison des bénéfices et des coûts. Ainsi se marient-ils lorsqu'ils espèrent s'en trouver mieux que s'ils demeuraient célibataires. Et divorcent-ils s'ils pensent que c'est une façon d'accroître leur bien-être. Lorsque l'on dit que cette manière de voir est sujette à controverse, les individus qui ne sont pas des intellectuels sont souvent surpris, tant il leur semble évident qu'on se marie ou qu'on divorce pour y gagner en bien-être. De fait, le point de vue du choix rationnel sur le mariage et sur d'autres comportements correspondant souvent aux intuitions économiques des personnes ordinaires. Ah, sauf que l'intuition, ils aiment pas ça, les économistes. Encore pire, les mathématisants, il leur faut de l'équation. L'intuition, eh ben, ça a rien à faire dans les raisonnements scientifiques, puisqu'ils sont mathématiques aussi. Gary Baker démonte une idée reçue. Ainsi, toujours dans son discours en 92 pour fêter son prix Nobel d'économie. Ainsi, contrairement à une opinion répandue, l'analyse économique des décisions familiales montre que les couples les plus riches ont moins de chances de divorcer que les couples les plus pauvres. Selon cette théorie, les couples riches gagnent beaucoup à rester mariés, ce qui n'est pas le cas des couples pauvres. Une femme pauvre peut effectivement se demander s'il vaut la peine de rester mariée avec un chômeur chronique. Des études empiriques réalisées dans de nombreux pays montrent effectivement que les mariages des couples riches sont beaucoup plus stables. Super ! Malgré l'affirmation du discours du début, il semble quand même que ce qui fait rester les couples riches ensemble soit une amélioration du bien-être tout matériel. Le bien-être, c'est du matériel pour Gary Baker et pour ces mathématiciens économisants. On se rapproche tout de même de l'appât du gain, d'un intérêt bien compris qui se limite à avoir. L'économie mathématisante se targue donc d'expliquer nos comportements amoureux par notre appartenance irréductible à la catégorie des homo economicus. Ainsi, des économistes ont tenté d'appliquer leur modèle de l'homo economicus au domaine de l'activité sociale. Un modèle abstrait, né des fantasmes mathématiques des économistes libéraux. Le scientisme n'est pas loin. Seulement, les humains ne sont pas réductibles à des formules et même ils peuvent collectivement faire des choix autres que celles de l'appât du gain et de la rationalité économique. Les humains n'agissent pas seulement par intérêt économique. Grande déconvenue pour les économistes libéraux, leur homo economicus n'existe que dans des formules mathématiques servant à définir des lois entre guillemets économiques, dont les exceptions sont si nombreuses dans la vraie vie que le terme de loi en devient fallacieux. Je veux pour preuve de l'inexistence de l'homo economicus, cet être mu par la rationalité économique, ce que moi, personnellement, je vis tous les jours dans le monde associatif, dans la sphère amicale, dans la sphère familiale. Je vous propose d'ailleurs de chercher autour de vous des gens qui agiraient essentiellement par rationalité économique, et si vous en trouvez, de faire un calcul rapide et approximatif pour connaître la proportion de ces gens par rapport à l'ensemble de votre entourage. On verra le résultat résultats la semaine prochaine et on parlera de cet Homo economicus qui, malgré son existence tout à fait théorique et juste conceptuelle, n'en demeure pas moins un phénomène que l'on retrouve dans les politiques de nos politiciens.
Et ben voilà, tout ça pour vous dire que l'Homo economicus n'existe pas, les libéraux nous vendent n'importe quoi, faites attention à vous. On va se quitter rapidement, mais avant on vous dit qu'il y a une manifestation contre l'extrême droite et ses idées mercredi 19 juin à 18h30 devant la préfecture. Allez, tout simplement, au revoir.